Bonjour, merci d'être venus si nombreux pour écouter Tahar. Mais comme vous avez pu le constater, il a des petits soucis de santé, donc il fait partie du contingent des masques bleus, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et donc, c'est moi qui temporairement vais prendre sa place, mais surtout, n'hésitez pas à revenir, parce qu'il va se rétablir très vite, et on vous promet que la prochaine fois, ce sera lui. Vous le savez sans doute, en tout cas pour ceux qui sont des habitués, nous avons envisagé d'étudier plus spécifiquement les psaumes cette année. Et donc j'en ai choisi un, et j'en ai choisi un qui est emblématique. Alors c'est un exercice d'autant plus difficile que ce psaume, tout le monde le connaît, tout le monde sait pourquoi il a été écrit, dans quelles circonstances, mais il est, j'emploie un mot à la mode, incontournable, et donc je vous propose de l'étudier parce que je m'en voudrais beaucoup qu'on passe à côté de ce psaume qui est essentiel. Alors, pas de mystère, c'est le psaume 51, psaume que tout le monde connaît et dont je vais lire dans un premier temps les deux premiers versets, c'est-à-dire l'introduction. C'est pas le psaume lui-même, c'est donc le titre ou l'entête, si vous voulez, du psaume. Ça dit ceci, du chef de chœur, psaume de David, quand le prophète Nathan alla chez lui, après que David fut allé avec Bathsheba. Dans le fut allé, il faut comprendre un épisode que je vais vous raconter brièvement. Alors, c'est un épisode qui est, pour ceux qui voudraient vraiment le récit, et je vous incite à le lire, qui est relaté dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 11 et 12. Alors, David, je pense que beaucoup le savent, c'est le roi d'Israël, et l'épisode se situe pendant ce qu'on appelle les guerres davidiques, c'est-à-dire que David, depuis qu'il est roi en Israël, s'efforce notamment d'étendre son royaume, et donc pour ça fait la guerre. Et cet épisode-là, spécifiquement, se situe pendant le siège de Rabat. Alors, Rabat, pas de confusion, ça n'est pas... aujourd'hui, Rabat, c'est la capitale du Maroc, hein, c'est ça, je me trompe pas, la mienne. Rabat, à l'époque, ça n'est pas la capitale du Maroc, qui s'appelle comme ça, c'est la capitale de ce qui est aujourd'hui la Jordanie. Et donc, sauf erreur de ma part, mais s'il y a un Jordanien dans la salle, qu'il n'hésite pas à me corriger, aujourd'hui, la capitale de la Jordanie s'appelle Amman. Et c'est cette ville, qui s'appelle aujourd'hui Amman, qui s'appelait, à l'époque du roi David, Rabat. Et donc, David fait le siège de Rabat pour étendre son royaume. Il fait le siège, c'est-à-dire plus exactement, il fait faire le siège par son armée. Parce que lui, personnellement, n'est pas sur le champ de bataille, il est à Jérusalem, et il se trouve qu'un soir, il a envie de se promener sur sa terrasse, ça arrive à tout le monde, même à des rois, et donc il se promène sur sa terrasse, et il voit une femme qui est en train de se baigner, donc il la voit nue, et pour faire court, il la voit et il la veut. Parce qu'elle est superbe. Et donc, la première chose qu'il fait, c'est, puisque c'est le roi, il donne ses ordres, et donc il donne l'ordre à quelqu'un de se renseigner sur cette femme, qui est cette femme, et on vient lui dire que, bah, justement, c'est une femme et pas une fille, c'est-à-dire qu'elle est mariée, elle est mariée à un des soldats, justement, de l'armée de David, lequel soldat est en train de faire le siège de Rabat. Là, l'attitude raisonnable de David aurait été de dire, bon, c'est la femme d'un autre, rideau. D'autant plus que lui, des femmes, il en prend autant qu'il veut, au sens où des jeunes filles, il peut en faire des femmes. Alors, il y a plusieurs... Alors c'est très compliqué parce qu'il y a plusieurs étages, on peut être femme de roi au plus haut niveau ou à un niveau inférieur, mais tout ça est très organisé. Et en tout cas, il n'y a pas de limite pour le nombre. le roi, il prend autant de femmes qu'il veut, à condition, bien sûr, et ça c'est la loi, que ce ne soit pas déjà la femme de quelqu'un d'autre. Et là, David, à qui on vient pourtant dire que cette femme, elle est mariée à un soldat, et que ce soldat est sur le front, eh bien, ça ne va pas l'arrêter, et donc il va ordonner qu'on lui amène la femme, et quand le roi ordonne, bien sûr, ça n'est pas négociable, et il va passer la nuit avec elle, et le lendemain matin, il va la renvoyer chez elle, en considérant que, bon, l'épisode est passé, très bien. Sauf que, il y a une conséquence à cette, enfin, une première conséquence à cet acte, un petit détail, mais qui a son importance, parce que le texte, donc dans le deuxième livre de Samuel, prend la peine de nous donner cette précision, qui paraît un peu curieuse, mais pour la suite c'est essentiel. Le texte nous dit que la femme, quand David la fait venir pour passer la nuit avec elle, elle vient d'avoir ses règles. Je ne détaille pas, vous comprenez, vous comprendrez en tout cas l'importance que ça a quand je vous aurai dit que quelques temps plus tard, cette femme, qui est retournée chez elle bien sûr le lendemain, envoie un message à David pour lui dire « je suis enceinte ». Ah, ça complique un peu tout. Et donc, David va avoir comme premier réflexe, parce que on a beau être le roi, enfreindre la loi, c'est pas du tout une bonne idée, va avoir comme premier réflexe de dissimuler ce qui s'est passé. Alors, ça veut dire quoi, dissimuler ce qui s'est passé? Et David, il n'est pas en manque d'imagination. Il se dit, elle est enceinte. Bon, c'est entendu. Ça veut dire que dans quelques mois, elle va avoir un enfant. Il faut à tout prix faire en sorte que tout le monde croit que c'est l'enfant de son mari. Sauf que, manque de chance, je viens de vous le dire, le mari, il est non pas chez lui, mais il est en train de faire le siège de la capitale de la Jordanie. Et donc, l'idée de David, c'est de dire, il suffit de rapatrier le mari à Jérusalem, de lui faire passer une nuit avec sa femme, et on considérera que l'enfant qui va naître, c'est l'enfant du père. Ce qu'il fait, sauf que ça se passe pas tout à fait comme il le souhaite, c'est-à-dire qu'on fait revenir, donc il s'appelle Uri, le mari, on fait revenir Uri du front, il vient à Jérusalem, sous le prétexte de donner des nouvelles au roi de l'état de la bataille, donc David dit « ramenez-moi Uri pour qu'il me dise où on en est du siège de... bon, » etc. Ça n'est évidemment qu'un prétexte, donc il lui demande alors comment ça va la guerre, Joab, qui est le général en chef des armées, comment il se comporte, bon, donc effectivement Uri donne des nouvelles, mais de toute façon ça n'était pas le but, et David en vient au fait en disant... alors l'expression en hébreu est assez particulière, c'est « lave-toi les jambes », mais ça veut dire, en bon français courant, « bon, maintenant que tu as fait ce que je te demandais de faire, c'est-à-dire que tu es venu me rapporter des nouvelles, va t'éclater avec ta femme ». Ce que Uri ne fait pas, parce que Uri dit à David, « moi, j'ai vu, enfin, mes camarades sont sur le front en train de dormir par terre, il est hors de question que je prenne du bon temps avec ma femme alors que on est en pleine guerre et donc je dors, alors tu m'as fait revenir à Jérusalem, c'est entendu, mais je dors par terre et je ne rentre pas dans ma maison. » Donc David se retrouve avec son problème sur les bras, donc, alors je fais court, il lui dit, alors reste un jour de plus, parce qu'il a eu, donc il fait un banquet, un festin où il fait en sorte qu'on serve le plus de vin possible à Uri, en se disant, quand il sera un peu bourré, ça lui donnera envie de rentrer chez lui pour voir sa femme. Rien du tout. Deuxième nuit, même comportement de Uri qui dit, moi je reste devant la porte et je dors par terre. Bon. Et donc comme ça, on est bien sûr que il n'aura pas touché sa femme depuis qu'il est parti au front. Et donc là, David va franchir une étape extrême, en disant, il n'y a plus qu'une solution pour couvrir la faute que j'ai commise. Et, vous le savez, puisque vous connaissez le récit, il va ordonner que on mette Uri, donc il va le renvoyer vers le siège de Rabat, qu'on mette Uri en première ligne à l'endroit où on sait qu'il va y avoir une tentative de sortie de la ville assiégée par des guerriers bien déterminés, et il va faire dire à ses troupes vous mettez en avant avec Uri, mais vous, au moment fatidique, vous reculez, et il n'y aura plus qu'Uri tout seul face aux ennemis, et c'est exactement ce qui se passe. Et évidemment, Uri est tué sur le champ de bataille. Alors on vient dire à Bathsheba, sa femme, qu'elle a perdu son mari à la guerre, et quelques temps après, c'est-à-dire une fois la période du deuil passée, généreusement, comme quoi il n'y en a que rien n'arrête, David la recueille dans le palais royal, mais cette fois il a le droit parce qu'elle est veuve, et donc il l'installe, et il pense que l'affaire est bouclée. Sauf que, et c'est l'entête du texte, le prophète Nathan, puisque c'est quasiment le prophète officiel du palais royal, le prophète Nathan va venir voir David pour lui dire quelque chose que je vais vous lire quand même. Donc c'est dans 2 Samuel. Et après, je vous promets, je vous lis le psaume. Le Seigneur envoya Nathan, donc il vient de se passer tout ce que je vous ai raconté. Le Seigneur envoya Nathan à David. Il alla le trouver et lui dit, « Il y avait 2 hommes dans une ville, l'un était riche et l'autre était pauvre. Le riche avait beaucoup de moutons et de bœufs, le pauvre n'avait rien du tout, sauf une agnelle, une seule petite, qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui en même temps que ses enfants. Elle mangeait de sa nourriture, elle buvait dans son bol et elle se couchait dans ses bras. Elle était pour lui comme une fille. Un hôte arriva chez le riche, et il n'eut pas le cœur de prendre un de ses moutons ou de ses bœufs pour apprêter le repas aux voyageurs venus chez lui. Il prit donc l'agnelle du pauvre et l'apprêta pour l'homme venu chez lui. David entra dans une violente colère contre cet homme, et il dit à Nathan, « Par la vie du Seigneur, il mérite la mort, l'homme qui a fait cela. Et de l'agnelle, il donnera compensation au quadruple, pour avoir fait cela et pour avoir manqué de cœur. » Nathan dit à David, « Cet homme, c'est toi. » Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, « C'est moi qui t'ai oint comme roi d'Israël, et c'est moi qui t'ai délivré de la main de Shaoul. Je t'ai donné la maison de ton maître, et j'ai mis dans tes bras toutes les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et celle de Juda. Et si c'est trop peu, je peux en ajouter autant. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole du Seigneur en faisant ce qui lui déplaît ? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui-même, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Eh bien, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison, puisque tu as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri, le Hittite, pour en faire ta femme. Ainsi parle le Seigneur, voici ce que je vais faire surgir. Voici, je vais faire surgir ton malheur de ta propre maison. Je prendrai tes femmes sous tes yeux, et je les donnerai à un autre. Il couchera avec tes femmes sous les yeux de ce soleil. Car toi, tu as agi en secret, mais moi, je ferai cela devant tout Israël et devant le soleil. » David dit alors à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Nathan dit à David, « Le Seigneur, de son côté, a passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. Mais puisque dans cette affaire, tu as gravement outragé le Seigneur, ou plutôt ses ennemis, le fils qui t'est né, lui, il mourra. » Et Nathan s'en alla. Et donc, cette prophétie de Nathan qui révèle à David que les choses ne vont pas se passer comme ça et que Dieu ne passera pas aussi facilement sur la faute qu'il a commise, cette prophétie va trouver 2 accomplissements. La première, c'est qu'effectivement, l'enfant qui a été conçu dans les circonstances que je vous ai racontées va mourir après avoir été malade pendant une semaine. Et la deuxième, assez curieuse parce que, effectivement, dans le récit, elle est décrite de manière assez énigmatique, c'est-à-dire que toi, ce que tu as, Nathan dit de la part de Dieu à David, toi, ce que tu as fait de manière discrète, c'est-à-dire prendre la femme d'un autre, moi, je vais le faire de manière officielle, c'est-à-dire que toutes tes femmes vont appartenir à un autre, et ça, devant tout le peuple. Et effectivement, il va se produire que, alors, dans une cérémonie assez surréaliste, Absalom, qui est donc un des fils de David, va faire installer une estrade, à un moment donné, pour coucher avec toutes les femmes de son père devant le peuple. Ça nous est relaté toujours dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 16 et au verset 21. Ahitophel dit à Absalom, va vers les concubines. Alors les concubines, le terme qui est traduit par concubine, ça veut dire les femmes, parce que c'est des femmes officielles, c'est pas des maîtresses, c'est des femmes officielles, mais de deuxième rang. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait plusieurs niveaux d'honneur pour les femmes. Donc, va vers les concubines de ton père, qu'il a laissées pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu insupportable à ton père, et le bras de tous tes partisans en sera fortifié. On monta pour Absalom une tente sur la terrasse, et Absalom alla vers les concubines. Alors, alla vers, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire, eut des relations sexuelles avec les concubines de son père, sous les yeux de tout Israël. Les conseils que donnait Ahitophel en ce temps-là avaient valeur d'oracle. Et donc, la prophétie de Nathan va se réaliser à double titre. Et puis surtout, et c'est là l'objet de mon propos ce matin, eh bien, ça va déclencher chez David une prise de conscience, parce que jusqu'à maintenant, ce qu'il a fait, ce qu'il a conçu, ce qu'il a réalisé, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas glorieux, quoi. Essayer par tous les moyens de dissimuler la faute qu'il a commise pour finalement aller jusqu'au meurtre. Alors, meurtre par personne interposée, mais quand Nathan s'adresse à David, il lui dit même pas « Tu as fait tuer Uri. Tu as tué Uri. » Parce que dans les textes bibliques, on rapporte les choses non pas à leur réalisation matérielle, mais aux intentions. Et donc, il est clair que l'assassin d'Uri, c'est pas l'ennemi qui a tenté une sortie d'une ville assiégée, c'est David lui-même qui a tout fait pour que ça arrive. Hein, on est sur le même registre Jésus apparaît à Paul pour lui dire « c'est moi que tu persécutes ». Or, Paul n'a jamais persécuté Jésus directement, mais en persécutant l'Église, Jésus lui dit « c'est à moi que tu t'en prends ». Et donc là, David est clairement désigné comme le meurtrier. Et donc ça va déclencher chez lui une prise de conscience qui va l'amener à écrire donc le psaume que je vous lis maintenant, et dont, pour pas être trop long, je relèverai simplement trois éléments essentiels. « Aie pitié de moi, mon Dieu, selon ta fidélité. Selon ta grande miséricorde, efface mes torts. Lave-moi sans cesse de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes torts. J'ai toujours mon péché devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu seras juste quand tu parleras et irréprochable quand tu jugeras. » Quand tu jugeras ou quand on te jugera, parce que dans la version grecque, enfin les traducteurs grecs de l'Ancien Testament, on traduit « quand on te jugera », ce qui fait par exemple que, c'est dans Romains chapitre 3 de mémoire, parce que ce texte est cité, voilà, Romains chapitre 3 verset 4, le texte est cité donc en grec, là pour le coup, « il faut que tu sois reconnu juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge », parce que encore une fois, les traducteurs grecs n'ont pas compris « reconnu juste quand tu juges », mais « reconnu juste quand on te juge ». Mais bon, peu importe. « Voici, dans la faute, j'ai été enfanté, et dans le péché, conçu des ardeurs de ma mère. Voici, tu aimes la vérité dans les ténèbres. Dans ma nuit, tu me fais connaître la sagesse. Ôte mon péché avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais que j'entende l'allégresse et la joie, et qu'ils dansent les eaux que tu as broyées. Devant mes péchés, détourne-toi, toutes mes fautes, efface-les. Crée pour moi un cœur pur, ô Dieu, enracine en moi un esprit tout neuf. Ne me rejette pas loin de toi, ne me reprends pas ton esprit saint, rends-moi la joie d'être sauvé, et que l'esprit généreux me soutienne. J'enseignerai ton chemin aux coupables, et les pécheurs reviendront vers toi. Mon Dieu, Dieu sauveur, libère-moi du sang. Que ma langue crie ta justice, Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Tu n'aimerais pas que j'offre un sacrifice, tu n'accepterais pas d'holocauste. Le sacrifice voulu par Dieu, c'est un esprit brisé.
Dieu, tu ne rejettes pas un cœur brisé et broyé. Fais du bien à Sion, rebâtis les murs de Jérusalem. Alors tu aimeras les sacrifices prescrits, offrande totale et holocauste. Alors on offrira des taureaux sur mon autel.
Je vous l'ai dit, parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps pour vous situer le contexte, trois axes principaux dans ce qu'écrit David dans ces circonstances-là. Et si ce psaume est tellement connu et tellement commenté, c'est parce que ce sont trois axes essentiels. Et non seulement essentiels, mais intemporels, c'est-à-dire, parce qu'on a, toujours du mal à se raccrocher au récit de l'Ancien Testament, on se dit, c'est une autre époque, c'est d'autres façons de concevoir les choses, et pour nous, est-ce que ça nous parle, enfin, jusqu'à quel point ça nous parle, là, il est clair que c'est pour tous les lieux et pour tous les temps que les leçons peuvent être tirées. La première des leçons, c'est ce que j'appellerais, alors on va s'entendre sur les définitions, c'est ce que j'appellerais le concept de péché originel. Et David élabore le concept de péché originel, mais pas au sens où on l'entend généralement, parce que quand on parle de péché originel, on se dit qu'il y a deux crétins dans un jardin il y a très très longtemps, dont on a la malchance d'être les descendants, qui ont fait ce qu'il fallait pas faire, et que du coup, on paye depuis ce jour-là les bêtises des premiers humains. Ça, c'est le péché originel, j'allais dire pour les nuls, c'est pas de ça qu'il s'agit. Là, il s'agit du constat que le péché, il n'est pas pour un humain accidentel. C'est pas je suis saint et il m'arrive de temps en temps de mettre de traverser en dehors des clous, comme on dit. Là, le constat que fait David, et il l'exprime très clairement en disant: j'ai été enfanté dans la faute et dans le péché, j'ai été conçu des ardeurs de ma mère. Alors, ça, c'est une méthode poétique. Dans la poésie hébraïque, on s'ingénie à dire deux fois la même chose avec des mots différents. Donc là, c'est exactement comme ça que ce vers est construit. C'est-à-dire, j'ai été enfanté dans la faute et j'ai été conçu des ardeurs de ma mère dans le péché, ce qui revient exactement au même, sauf qu'on a changé les mots. Mais ce qui veut surtout dire que le péché, la faute, la culpabilité par rapport à Dieu, on la doit pas à nos très 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 lointains ancêtres, on les doit à notre nature. Et si vous lisez le début de l'épître aux Romains, vous verrez que Paul théorise ça de manière très détaillée, en disant schématiquement: voilà le constat que je fais. La loi de Dieu, bien sûr qu'elle est bonne. Et ça, c'est encore quelque chose qu'on peut se dire aujourd'hui. On peut se dire aujourd'hui que quelqu'un qui a dit « aimez-vous les uns les autres », ben, il a dit tout ce qu'il fallait. Il a dit tout ce qu'il fallait pour que l'humanité s'en sorte. Et que si on arrivait à réaliser ça, c'est-à-dire s'aimer vraiment les uns les autres, on ferait plus que s'en sortir, on ferait plus que survivre. On serait dans le bonheur absolu. Sauf que, dit Paul, moi ce que je constate, c'est que, effectivement, et alors, c'est vrai qu'on essaye, c'est vrai qu'on passe pas nos vies à se taper les uns sur les autres non plus, parce qu'on sait bien que c'est une question de survie de l'espèce d'ailleurs. Il faut bien franchir la première marche de l'escalier de l'amour, et cette première marche, ça s'appelle le respect. Il faut bien, de temps en temps, pour pouvoir être respecté par les autres, les respecter aussi. Mais ça, c'est le minimum syndical. Mais on sait très bien que si on allait bien au-delà du respect vers ce qui s'appelle l'amour, ça changerait le monde, si tout le monde était évidemment dans cette optique-là. Paul théorise ça en disant: intellectuellement, j'adhère parfaitement au fait que ce qu'a dit Dieu pour le bonheur des hommes, c'est vrai que ça ferait le bonheur des hommes. Sauf que ce que je constate, moi, dit Paul, mais il peut parler à ma place, hein, ou je peux parler à la sienne, ce que je constate moi aussi, c'est que je ne suis pas configuré comme ça. Je ne suis pas configuré pour être capable d'aimer Dieu de toutes les ressources de mon être, puisque c'est ce qui m'est demandé, tout mon cœur, toute mon âme, toute ma pensée, toute ma force. Donc tout ce qui constitue mon être, tourné vers Dieu dans un élan d'amour, et quand Dieu dit ça, il dit, c'est pas un deuxième ordre, c'est le même, aimer les autres comme on s'aime soi-même. Je ne suis pas configuré comme ça. Et Paul dit, donc j'adhère intellectuellement à la loi de Dieu, je sais qu'elle est bonne, mais quand il s'agit de l'accomplir, je ne suis pas à la hauteur, tout simplement pas à la hauteur. Et il dit, je découvre en moi cette loi, c'est que je suis partagé entre mon adhésion à la parole de Dieu et puis mon incapacité à la réaliser. Il a cette formule, je fais le mal que je ne voudrais pas et je ne fais pas le bien que je voudrais. Autrement dit, je n'atteins pas mon but. Et ne pas atteindre le but, en hébreu, c'est le mot qu'on traduit par péché. Péché, c'est rater la cible. Et on est donc intrinsèquement pécheur. Et c'est ça que, parce que, faut pas se méprendre, David n'est pas un enfant adultérin. Quand il dit « j'ai été conçu dans le péché et j'ai été, comment il dit ça, dans la faute j'ai été enfanté », ça ne peut pas dire que sa mère accouche avec le facteur, c'est pas du tout ça. C'est un enfant normal, pas normal, les autres sont normaux aussi, mais conçu de manière classique. Sauf que quand il dit ça, ça veut dire « je découvre que quand... » Alors que j'ai droit à toutes les filles que je veux dans le royaume, il suffit de demander, il suffit de claquer des doigts en disant « celle-là, tu vas me la chercher, tu me la ramènes », et il l'a dans son lit, la nuit même. Il faut qu'il aille prendre une femme qui est déjà la femme de quelqu'un d'autre, alors que c'est le seul interdit. C'est vrai que le langage de la psychologie a un peu envahi le langage courant, mais le péché depuis la fondation du monde, ça s'appelle l'intolérance à la frustration. Ce qui ressemble beaucoup à ça, c'est que dans un jardin où il y a des dizaines et peut-être même des centaines d'arbres fruitiers comestibles, on leur dit « il y en a un auquel il faut pas toucher ». Eh ben, c'est celui-là sur lequel on va se focaliser. C'est l'attrait de l'interdit. Il y a largement de quoi se nourrir avec tous ces arbres fruitiers autorisés. Non, il y en a un auquel... on a posé un interdit en disant « ça, tu touches pas parce que... » Et je reviens pas sur ce que j'ai déjà eu l'occasion dans d'autres circonstances d'expliquer en détail. Il y a une raison à ça. Là, il y a toutes les femmes, enfin toutes les filles célibataires que tu veux, celle-là qui est en train de se baigner et qui effectivement est magnifique, c'est ce que dit le texte, de la même manière qu'on dit qu'effectivement, à un autre endroit, David est pas mal non plus, merci. Qu'est-ce que t'en fais, quoi? Est-ce que l'attrait de l'interdit, et David, comme Paul, et comme d'autres, comme chacun de nous, va découvrir en lui cette loi, comme dirait Paul, je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je devrais. Et au cas où, il viendrait à l'idée de certains de dire ou de penser « Ah, mais moi, ça me concerne pas, j'ai pas trompé mon conjoint. » D'abord, il faut se souvenir de la parole de Jésus qui dit « Quand on regarde quelqu'un en le désirant, quelqu'un de l'autre sexe, ou même d'ailleurs du même sexe, alors, enfin, quand on regarde quelqu'un avec l'envie, le désir, parce que c'est pas de l'amour, hein, c'est du désir, là. Ils n'ont même pas eu le temps de prendre un verre. Il ne connaît pas son caractère, Bathsheba. Bathsheba, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est assez ironique, ça veut dire en hébreu la fille du serment. Il ne l'aime pas au sens où il n'a pas pris le temps de faire connaissance avec. Non, il la désire, juste parce qu'il l'a vue nue et qu'elle est splendide. Jésus dit, le simple fait de regarder une fille de cette manière-là, j'allais dire, le reste, c'est en tout cas ce que sous-entend Jésus, le reste, ça découle de la pensée. Jésus nous a montré à quel point la faute, elle se situe pas, en tout cas, initialement, au stade du comportement, ni même au stade de la parole, mais au stade de la pensée. Alors, si on raisonne comme ça, et Jésus nous l'impose, ça agrandit le club des gens concernés, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis surtout, ce qui est vrai pour le désir physique est vrai pour tout le reste. Alors, s'identifier à David, c'est relativement facile, et c'est ce que l'honnêteté impose, en disant, bah oui, moi aussi je suis comme ça, je suis comme David, je suis comme Paul, je suis comme Adam, je suis comme Ève. Je sais que la loi de Dieu est bonne, mais je suis incapable, par mes propres forces, de m'y soumettre. Alors, le deuxième axe qui est essentiel, une fois qu'on a reconnu le caractère universel du péché, de la faute, de la culpabilité par rapport à Dieu, c'est ce qui est intéressant dans la manière dont David envisage les choses après que Nathan lui ait véritablement ouvert les yeux. Parce que, pardon pour ce mot qui peut vous paraître grossier, mais je le dis au sens sartrien du terme pour ceux qui ont lu Sartre, David, avant la visite de Nathan, se comporte comme un salaud. Parce que essayer d'abord de faire en sorte que les deux époux couchent ensemble le plus vite possible, et ça par tous les moyens, pour essayer de rattraper le coup, et après aller jusqu'au meurtre, parce que le problème c'est ça, c'est c'est le problème de la faute d'une manière générale. C'est-à-dire qu'une faute, ça je pourrais le développer, mais je le dis simplement et vous pourrez le vérifier, une faute qui n'est pas avouée, qui n'est pas confessée, elle en entraîne nécessairement une plus grave. Et là, David, qui, s'il avait confessé sa faute, ça aurait pu s'arrêter là, va être amené par son attitude vis-à-vis de cette culpabilité, il est dans le déni, hein, clairement, et la culpabilité, il la refoule, il va être amené de passer de l'adultère au meurtre. C'est ça, le péché qu'on ne confesse pas. C'est qu'il en génère forcément un plus grave. Et là, la transformation, j'ose dire, la conversion de David après la visite de Nathan, ça va avoir pour conséquence de lui faire dire que, dans son cas, mais je pourrais dire dans le mien, il n'y a que la grâce qui puisse changer les choses. Il va dire, tu n'aimerais pas que j'offre un sacrifice et tu n'accepterais pas un holocauste. Il a essayé de couvrir sa faute. Maintenant, non seulement il sait que c'était une folie, mais il sait que cette faute, il ne peut pas l'expier. Et la deuxième prise de conscience essentielle pour l'être humain, c'est ça. C'est de dire, je ne peux pas réparer. Pourtant, roi d'Israël, hein, je fais ce que je veux. Non, ça, tu ne peux pas le réparer. Tu ne peux pas le réparer, et la seule chose qui puisse faire que l'ordre divin soit rétabli, c'est la grâce. Et ça, il faut l'entendre. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour couvrir ma faute. Et je peux gesticuler dans tous les sens, je peux faire les pieds au mur. Non seulement pour la couvrir, ça c'est inexcusable, mais pour me la faire pardonner, c'est-à-dire dire à Dieu, je vais me rattraper, tiens, je vais faire du bien, je vais multiplier les bonnes actions. David, il n'en est plus là. Il sait que ce dont il a besoin, c'est la grâce de Dieu. Aie pitié de moi. Et à longueur de ligne, à longueur de ce poème, il va dire, aie pitié de moi. Efface mes torts selon... Alors, presque ironiquement, il commence son poème par, aie pitié de moi, selon ta fidélité. C'est, si Dieu était en face de lui, il dirait, tiens, justement, parlons-en de fidélité. Non, la première des choses dont David a conscience, c'est que la fidélité, c'est pas à sa portée à lui. Mais la fidélité de Dieu ne peut jamais, elle, être prise en défaut. Vous connaissez la formule, si on est infidèle, lui, il reste fidèle. Et donc, se tourner vers Dieu en lui disant, bon, ok, je ne suis pas fidèle à ta loi. Le péché, il est attaché à moi depuis ma naissance. Je suis tout simplement imparfait, et ça suffit. L'imperfection, c'est la faute devant Dieu. Qu'est-ce qui peut subsister d'impur, ne serait-ce que devant un Dieu tellement saint et tellement pur? Je prends toujours l'image de la salle d'opération. Nous tous, ce matin, on est assez propres pour se balader en ville et sans être regardés de travers par des gens qui vont dire « qu'est-ce qu'il est crade ?» D'accord. Mais par contre, si vous essayez de rentrer au bloc à l'hôpital, on va vous dire « non, vous rentrez pas. Vous rentrez pas parce que vous êtes plein de microbes. Parce que cliniquement, vous êtes sale, même sans le savoir quand vous vous prenez dans la... » Et c'est ça la sainteté de Dieu, c'est que on n'est pas capable d'être devant lui, même si on n'a pas fait de choses monstrueuses, même si on a finalement un bon comportement, même si on est quelqu'un de bien. Et ce matin, on est tous des gens bien propres sur eux, comme on dit, mais pas assez pour rentrer au bloc. Et donc, pas assez purs pour être en présence de Dieu sans être carbonisés dans la seconde. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Alors, il dit ça au verset 18, bien sûr, mais aussi à tous les autres endroits où il dit que ce qu'il a essayé de dissimuler, ce qu'il a essayé de, comme on dirait aujourd'hui, de mettre sous le tapis, ça m'a, dit David, ça m'a fait perdre la joie. Fais que j'entende l'allégresse et la joie, et qu'il danse les eaux que tu as broyées. C'est que il se croit tiré d'affaire quand il a tué le mari dans cette espèce de vaudeville, dans cette espèce de scène de théâtre à trois. Il s'est débarrassé du mari. Bon, bah, ça y est, tranquille. Et du coup, il peut même recueillir la veuve en passant pour quelqu'un de bien. Sauf que, au fond de lui, quand il le confesse et quand Nathan lui révèle l'ampleur de sa faute, il dit « mes os sont broyés et j'ai perdu la joie ». Il dit « rends-moi la joie, voilà, rends-moi la joie d'être sauvé et que ton esprit généreux me soutienne ». Et puis, au verset 16, « libère-moi du sang ». Cette culpabilité, là, pour le coup, que Dieu fait peser sur lui pour qu'il sente la nécessité de la grâce, pour qu'il sache que la seule issue, c'est de crier vers Dieu, ça lui pourrit la vie. Il est broyé. Et il dit « libère-moi du sang », c'est-à-dire « libère-moi de cette culpabilité de l'homme que j'ai tué ». Alors, on n'a tué personne, mais on a besoin d'être libéré de la culpabilité, par la grâce. Et la seule parole qui vaille, et on la trouve dans plusieurs endroits à la Bible, dans la Bible, c'est le « aie pitié de moi ». Aie pitié de moi, parce que les sacrifices, les offrandes, les comportements que je pourrais avoir, ça n'effacera jamais la culpabilité qu'il y a au fond de moi. Alors, bon, je développe pas plus, et j'en viens au troisième et dernier point, qui est, parce que faut aussi que ce poème soit justement un poème de joie, c'est que ce poème en même temps proclame l'absolue efficacité de la grâce. C'est que David, en même temps, et ça c'est la signature de Dieu, en même temps qu'il révèle la culpabilité en disant « non mais, congénitalement, c'est ça que veut dire depuis ta naissance, congénitalement tu es incapable du bien et enclin au mal, il te faut la grâce ». Et en même temps que Dieu révèle ça, il révèle la troisième chose, c'est « par contre, cette grâce, si tu la demandes, elle va te rendre neuf, elle va te rendre, alors blanc comme la neige. Et là-bas, là, y a une expression, l'eau. Enfin, quand on voulait de l'eau absolument pure, on prenait la neige, parce que on était sûr que c'était. Enfin, la neige, c'est vraiment le symbole. Bon, en plus, il neige pas tous les jours dans ces coins-là, vous le savez. Hein. La neige, c'est vraiment le cadeau de la pureté absolue. Et donc, je vais être comme la neige. Et puis, tout le langage de la lessive y passe. Hein, c'est lave-moi, purifie-moi, lave-moi, purifie-moi et crée. Alors, ce verbe-là est important. C'est-à-dire recrée-moi. Quand on dit, des siècles plus tard, bien sûr, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, ça veut dire ça. Ça veut dire, j'ai besoin d'être recréé. Ne m'enlève pas l'Esprit Saint. Ça, David, il sait de quoi il parle parce que il a succédé à Shaoul. Shaoul, dont on dit que, à un moment, Dieu lui a retiré son esprit. Donc, il sait que c'est pas de la littérature, c'est pas du théâtre, c'est de la réalité. Il a peur de ça, David. Et il dit, par pitié, ne m'enlève pas ça. Ne m'enlève pas ça, mais lave-moi. Et, alors, nettoie-moi. Il y a plusieurs verbes qui sont utilisés. Enlève mon péché avec l'hysope, c'est-à-dire, c'est un produit d'hygiène. Et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Et surtout, crée pour moi un cœur pur. C'est-à-dire, il ne faut pas, et c'est ça l'effet de la grâce aussi, il ne s'agit pas de rétablir les choses, il ne s'agit pas d'effacer la faute, et puis on recommence, et puis on va à confesse, et puis on recommence, et puis on va à confesse. Il y a un film comme ça, où, un film américain, où c'est presque burlesque, parce que le gars, toutes les semaines, il a sa liste, quoi. Mais par contre... Dans la semaine, il s'en donne à cœur joie, l'essentiel étant de confesser. Ça efface l'ardoise et on recommence. Non, c'est pas ça. C'est créer en moi. Alors, effectivement, ça va pas tuer notre nature dont David parle quand il dit que depuis le sein de sa mère, etc. Ça va pas la tuer, mais que puisse coexister avec cet être enclin au mal. Un autre être spirituel, tout ça est développé dans le Nouveau Testament, qui lui est rendu capable par l'Esprit de Dieu de faire sa volonté. Alors, ça, c'est ce qui va faire que, par la grâce, et c'est ce qui est annoncé et reconnu dans ce poème, David ne sera plus le même après qu'avant, et sera rendu capable d'être... quelqu'un dont Dieu dira, cette formule est extraordinaire, j'ai trouvé en lui un homme selon mon cœur, en hébreu. Alors que bon, l'ardoise a été effacée. Puisqu'on parle des psaumes, une des plus belles phrases de tous les psaumes, pour moi, c'est le verset 12 du psaume 103. Alors, si vous allez voir le verset 12 du psaume 103, vous verrez que tout le monde la connaît par cœur. C'est la phrase qui dit « Il met entre nous et nos fautes la même distance qu'entre l'Est et l'Ouest. » À une époque où on ne savait pas et on ne soupçonnait même pas que la distance entre le Nord et le Sud était mesurable, alors que la distance entre l'Est et l'Ouest ne l'était pas. Entre le Nord et le Sud, il y a une distance finie. Entre l'Est et l'Ouest, il y a une distance infinie. Il n'a pas dit, je mets entre vous la distance qu'il y a entre le Nord et le Sud. Parce que ça peut se combler, une distance, quand elle est mesurable. Je mets entre vous la distance qu'il y a entre l'Est et l'Ouest, entre vous et votre péché. Ça veut dire une distance infinie. Je vous rétablis dans quelque chose de plus grand que ce que vous étiez avant. Alors, je conclus. Je suis dans les temps, magnifique. Je m'étonne moi-même. J'ai fait du tard ce matin. Dernier élément, mais il est d'importance. La grâce, puisque c'est de ça qu'on parle. La grâce n'est gratuite que pour celui qui la reçoit. Ça veut dire quoi, la grâce n'est gratuite que pour celui qui la reçoit? Ça veut dire que David va bénéficier de la grâce, c'est-à-dire de la gratuité, par définition. Mais il y aura un prix à payer. L'enfant qui a été conçu, il va mourir, dit Nathan. Et effectivement, 7 jours après, il est mort. Et là, quand je lis ça, et peut-être quand vous lisez ça, vous pensez, mais c'est dégueulasse. Pauvre gosse. Il a rien fait, il a rien demandé. Et c'est lui qui prend. Ouais, c'est lui qui prend. Ouais. Ouais. La grâce, pour David, elle est au prix de la mort d'un innocent, comme pour nous. La grâce, elle est toujours au prix de la mort d'un innocent. Et si Dieu m'accorde sa grâce, alors évidemment, pour moi, gratuitement, je l'ai dit, elle n'est gratuite que pour celui qui la reçoit, il a fallu que le prix soit payé. Et que le prix soit payé, non pas par quelqu'un d'aussi coupable que moi, parce que sinon, si ça avait été quelqu'un d'aussi tordu que David, qui était mort, ça n'aurait pas eu de sens. Là, c'est un innocent qui périt. Et pour moi aussi, c'est-à-dire que pour que Dieu m'accorde sa grâce, il a aussi fallu qu'un innocent paye le prix, et le prix de sa vie. Et c'est son fils. Alors, c'est vrai que la mort de Jésus, son sacrifice, couvre, comme dira Jean-Baptiste en le voyant arriver, tous les péchés du monde. Ce petit enfant n'a eu de pouvoir pour satisfaire la justice de Dieu que de mourir pour une faute. Celui que nous adorons ce matin est mort pour toutes les fautes de tous les hommes, de tous les temps. Mais ne perdons pas de vue que le prix de la grâce, enfin la grâce, c'est pas quelque chose de léger en valeur, c'est quelque chose qui a une valeur extrême, parce que c'est le prix du sang, et du sang innocent. Alors, voilà ce dont tout ce dont David a pris conscience par la prophétie de Nathan et aussi par l'assistance de l'Esprit de Dieu. Et je ne vais pas faire ici la biographie de David, mais comme vous le savez sans doute, si vous avez lu les textes, David ne sera effectivement plus jamais le même après ça.